That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Regardez cette image, c'est la toute première fois que vous voyez un trou noir.
Rosetta, c'est le nom de cette sonde qui termine un voyage de 10 ans. L'engin de 32 mètres d'envergure va se mettre en orbite, sans doute en fin de matinée autour d'une comète, ce qui serait une première, et la sonde tentera d'y larguer un petit robot.
La tête dans les étoiles. Votre revue de presse en astronomie, une émission préparée, réalisée et présentée par Aurélien Housset.
Le robot Curiosity s'est posé sur Mars et part à l'attaque de la planète rouge.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission La tête dans les étoiles, une émission qui nous plonge dans l'astrophysique ou l'astronomie. Chaque mois, voilà, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien depuis le mois dernier. Il vous reste peut-être quelques papillotes ou quelque part de galettes des rois. Bon, vous savez, il faut profiter quand même de la vie, la gourmandise, mais avec parcimonie, je pense que c'est le mieux. Alors sachez qu'aujourd'hui, dans notre télescope, eh bien, nous aurons les poubelles de l'espace, car oui, ça devient, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Nous resterons dans la station spatiale ISS avec bien cette question que l'on peut se poser, quelle est l'horloge utilisée par les astronautes ? On parlera aussi des étoiles. Est-ce qu'il existe une étoile verte? Et puis, en fin d'émission, je vous parlerai d'un parasol géant pour bloquer quelques rayonnements solaires. C'est un projet. On verra ce qu'il en est. Sans plus tarder, je vous propose de commencer cette émission avec les fameuses poubelles de l'espace. Et cette question, eh bien oui, qui va les sortir? Alors, je vais faire référence à un article paru dans Science et Vie il y a un an déjà, concernant les poubelles de l'espace. C'est un réel problème. Alors, selon l'ESA, 10 400 tonnes de ferraille planeraient au-dessus de nous. Et on le sait, le moindre petit boulon, vu sa vitesse de mouvement, peut poser de réels problèmes. Alors, dans le lot, on trouve des étages de fusées, des morceaux de satellites ou encore du matériel de mission. Autant de débris en tout genre qui inquiètent de plus en plus les ingénieurs spatiaux, ils pourraient nous tomber sur la tête ou gêner aussi les observations du ciel. Alors, que faire ? Alors, Science et Vie nous apprend que les objets de plus de 10 cm envahissent l'orbite terrestre de plus en plus. En 2021, environ 26 000 objets sont officiellement répertoriés par la NASA. Et ce catalogue ne compte pas les objets militaires ou trop loin de notre planète. Science et Vie nous propose aussi un graphique très simple à comprendre, nombre d'objets versus années. Eh bien, on s'aperçoit que depuis 1960, tous les types d'objets ne cessent d'augmenter. Les étages de fusées, les débris de mission, les satellites, actifs ou non, les débris de fragmentation. Dans ce court article, Science et Vie nous invite à retenir trois chiffres. Trois nombres, j'ai envie de dire. Alors 130, eh bien c'est en millions le nombre d'objets de moins de 1 cm qui gravitent autour de la Terre, ou qui gravitaient plutôt en novembre 2022. On peut imaginer que ce nombre a bien évidemment augmenté. À ce total s'ajoutent 1 million d'objets mesurant entre 1 et 10 cm et 36 500 supplémentaires de plus de 10 cm. Donc 130 millions d'objets sont en gravitation autour de notre planète, 130 millions d'objets de moins de 1 cm. C'est beaucoup. 95%, eh bien c'est au 4 février 2022, il y a donc 2 ans, la part des débris en orbite répertoriée provenant des États-Unis, de la Russie ou de Chine. Alors devant ceux de la Grande-Bretagne, du Japon et de l'Inde, les débris français ne représentent que 2,5% du total. Et puis 10%, oui, alors ce nombre est aussi en corrélation avec les activités spatiales de certains pays, bien évidemment. Et puis 10%, eh bien c'est le nombre qu'un accident mortel lié à une chute de débris ait lieu au cours des 10 prochaines années, selon une étude publiée en juillet dernier. Jakarta, Mexico ou encore Bogota font partie des grandes villes les plus exposées, et bien tout simplement de par leur latitude. Vous êtes toujours à l'écoute de La Tête dans les Étoiles et nous allons à présent partir pour la Station Spatiale Internationale. Voilà une vraie station. Alors, quelle est l'horloge utilisée par les astronautes sur cette station ? Eh bien, toute la station spatiale est à l'heure du méridien de Greenwich, soit l'heure de Londres. Il a été choisi car en fait il se situe autour du fuseau horaire médian pour tous les partenaires de l'ISS et donc il permet aux deux principaux centres de contrôle de mission, Moscou et Houston, de couvrir chacun une demi-journée. Alors avec quoi les astronautes se repèrent-ils sur la station spatiale? Eh bien une montre, mais pas n'importe laquelle. En effet, ils utilisent l'Omega Speedmaster Skywalker X-33. Elle a été conçue avec l'aide de l'astronaute français Jean-François Clairvoy, testée et qualifiée par l'Agence spatiale européenne. Alors pour cela, en fait, la montre a été soumise et a réussi 5 séries de tests. Rayonnement spatial, et oui, dépressurisation, repressurisation, et puis vibration intense, accélération jusqu'à 7 grammes, et température extrême du vide spatial allant de moins 45 à plus 75 degrés Celsius. Enfin, il faut savoir que le temps ne s'écoule pas tout à fait comme sur le plancher des vaches, mais plus lentement. Eh bien, cette agence spatiale européenne va envoyer sur l'ISS une horloge atomique ultra précise qui devra tenir compte de ses effets relativistes. Alors, c'est peut-être d'ailleurs déjà fait. Mais cette différence est infime pour l'ISS, 0,01 seconde par an, et peut-être donc finalement négligée pour la vie des astronautes, mais pas forcément pour leur travail. Toujours l'écoute de La Tête dans les Étoiles, on est toujours bien au mois de février, c'était un morceau très sympathique de Space Ghost, extrait de cet album, d'ailleurs c'est le titre éponyme, allez soyons clairs, Evanescent, paru en 2022. On peut se poser la question, je me l'étais posé moi-même, existe-t-il des étoiles vertes? Eh bien la réponse est oui. Et oui, les étoiles peuvent même être de toutes les couleurs, tout simplement, du spectre électromagnétique visible, du bleu au rouge, en passant par le vert et donc aussi le jaune. Leur teinte dépend en fait de leur température. Plus l'étoile est froide, plus son rayonnement est dominé par le rouge, à une extrémité donc du spectre. Et plus elle est chaude, plus elle est dominée par le bleu, l'autre extrémité. Explique pour Science et Vie Julien Morin, chercheur CNRS au laboratoire Univers et Particules de l'Université de Montpellier dans l'Hérault. Les étoiles de température intermédiaire, donc, elles rayonnent dans le vert. Eh bien, c'est le cas par exemple du Soleil notamment. Eh oui, alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les teintes verdâtres de notre astre? Eh bien, cela tient à notre équipement optique. Notre rétine est composée de plusieurs types de photorécepteurs, parmi lesquels certains ne captent que le rouge, d'autres le bleu et certains principalement le vert. Alors contrairement aux étoiles froides qui rayonnent majoritairement dans le rouge et aux chaudes qui brillent surtout dans le bleu, eh bien les astres comme le Soleil émettent dans le vert, certes, mais aussi dans une moindre mesure dans le rouge et le bleu. Leur lumière excite donc tous les types de photorécepteurs. Résultat, eh bien ce type d'étoile nous paraît blanc. Et oui, comme si toutes les couleurs en fait se mélangeaient. Un parasol géant. Alors je sais, c'est pas du tout l'époque, la saison du parasol, mais je vais vous révéler cette information surprenante parue dans Science et Vie, c'était en automne dernier. Parasol géant. Oui, pour lutter contre le réchauffement climatique, un astronome de l'université d'Hawaï propose d'attacher un parasol, entre guillemets, géant, à un astéroïde et de les placer entre la Terre et le Soleil. Alors c'est une idée très sérieuse, et oui, et cette très sérieuse idée a été publiée dans la revue PNAS, et ce parasol permettrait de bloquer près de 2% du rayonnement solaire. Bon, ne reste donc plus qu'à capturer un astéroïde. We'll be right back. Alors non, chers amis, vous n'êtes pas trompés, vous ne vous êtes pas trompés d'émission, hein. Vous êtes bien toujours à l'écoute de La Tête dans les Étoiles. Bien évidemment, ce morceau de Richard Galliano fait penser à une émission de France 5, Les Escapades de Petit Renaud, si mes souvenirs sont bons. Une émission qui était très sympathique et qui n'existe plus depuis le printemps 2018. Non, vous êtes bien à la radio sur votre station préférée. Et vous êtes bien à l'écoute de La Tête dans les Étoiles. Alors, chers amis, une dernière information pour aujourd'hui. Est-ce que toutes les planètes tournent déjà? Et si oui, pourquoi? Eh bien, il faut savoir que la majorité des planètes de l'univers tournent à la fois sur elles-mêmes et autour de leur étoile. Donc, comme classiquement les planètes de notre système solaire. Mais pas toutes. C'est vrai uniquement pour les planètes encore rattachées, gravitationnellement parlant, à une étoile, comme la Terre qui évolue autour du Soleil. Alors, d'abord, dès leur formation, il faut savoir que toutes les planètes tournent sur elles-mêmes et autour de leur étoile. Et dans un seul sens, car le nuage primordial d'où sont issues les planètes tournait déjà sous l'effet de la gravitation. Et puis donc, petit à petit, bien matière et gaz se sont agglomérés et les planètes ont conservé ce même mouvement. Mais il faut savoir que la rotation de la planète sur elle-même peut être inversée. C'est le cas de Vénus dont nous avons récemment parlé dans cette émission. La planète avait vraisemblablement basculé sur son axe à la suite d'un choc et tourne donc aujourd'hui à contresens. Et il arrive même qu'une planète quitte son orbite, attirée par le passage d'un objet massif, comme une étoile, ou suite à une collision, une planète peut devenir une planète errante. Et en fait, eh bien, elle conserve alors sa rotation sur elle-même, mais sa trajectoire devient linéaire, sauf en cas bien évidemment de rencontre avec un autre corps céleste. Voilà, chers amis, c'est ainsi que se referme ce numéro de votre émission La Tête dans les Étoiles. Je voulais, pour terminer ce numéro de février, vous donner un conseil de lecture. C'est paru dans Science et Vie en octobre dernier, Voyage au cœur des astres. Alors, fort d'instrumentation d'observation et de mesures de plus en plus performants, on en parle ici notamment avec le télescope James Webb, eh bien, donc, télescopes, sondes, atterrisseurs, sismographes, les planétologues approfondissent leur connaissance de notre système solaire, jusqu'à révéler, non sans surprise, ce que les protagonistes recèlent en leur tréfonds. Donc, je répète, c'est un article, un dossier, plus précisément, sous la plume d'Evrard Wissem El-Jawari, paru dans Science et Vie d'octobre 2023. Et vous verrez, eh bien, il y a des informations très intéressantes sur la planète Mars, sur notre bonne Terre, sur le Soleil, les chiffres clés, type, diamètre, masse, Jupiter aussi avec ses pluies d'hélium et d'autres géantes gazeuses. On parlera aussi dans cet article de Neptune. Et puis nous reviendrons, l'article revient, sur le noyau solide de la Lune. Voilà, c'est mon dossier. C'est mon conseil de lecture, Voyage au cœur des astres, paru dans Science et Vie, c'était en octobre 2023. Chers amis, ainsi se referme ce numéro. Je suis ravi de l'avoir animé en votre compagnie, j'espère que ce numéro vous a plu. Nous nous quittons pour mieux nous retrouver le mois prochain, même station, même heure. D'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt, salut.
Zeline, hoş görendeki davatına ye, perendişkine. Zeline, hoş görendeki davatına ye, perendişkine. Aswad zanam, jane mendeshe, levi walate. جسمم خيبتي